Chapitre 12e, chacun son verre. C'était précisément le jour où Mathéus avait fait appliquer la question à M. de Chauffontaine. On venait d'enfermer les deux prisonniers dans leur nouvelle demeure, l'un dans la chambre rouge, l'autre dans la chambre verte. Un escalier taillé dans le roc mettait en communication cette dernière pièce étroite et voûtée avec le corps de logis occupé par Mathéus lui-même. Mathéus venait de souper délicatement, en compagnie du médecin attaché au service du château. Égayé par la conversation de ce savant homme, et peut-être aussi par des libations trop abondantes, il voulut rendre visite à sa victime. « Je réponds de lui, » dit-il d'un air doux, « et ne veux pas qu'un accident altère sa santé. » Le médecin suivit le seigneur Mathéus en trébuchant. Les deux acolytes trouvèrent Renaud étendu par terre, grignotant son morceau de pain. À la vue de Mathéus, Renaud cligna des yeux. « Hé hé, voilà un rayon de lumière qui allonge furieusement votre nez. Les fouines vont vous porter en vie. » Cependant, par habitude, le médecin lui tâtait le pouls. « Ne pensez-vous pas que l'humidité du sol, dit Mathéus, peut avoir une action malsaine sur les nerfs de monsieur le marquis ?»« Certainement, » répondit le docteur. Mathéus fit un signe. Deux valets passèrent une corde sous les aisselles de Renaud, lièrent ses poignets derrière son dos et lui serrent à quelques pieds du sol. « Voyez si l'anneau est solide, » reprit Mathéus. « Il ne faut pas exposer monsieur le marquis à une chute qui pourrait le blesser. » C'était une torture nouvelle, ajoutée à celle que Renaud avait déjà subie. Les cordes assujetties par un nœud, Mathéus salua ironiquement Renaud. « Bonne nuit, monsieur le marquis, » ajouta-t-il, « et à demain. »« À demain, joli seigneur, et ne mordez pas vos oreilles en dormant, votre bouche leur en veut, » lui cria Renaud. À la même heure, et tandis que Mathéus regagnait son appartement, Magnus conduisait Carquefou et Rudiger au pied du grand rocher sous lequel s'ouvrait le souterrain. Ils s'étaient munis de capuchons, de cordes et de bâillons. Tous trois portaient des casaques en peau de buffle garnies de lames de fer qu'aucune arme ne pouvait entamer. Magnus et Carquefou, affublés de fausses barbes, étaient méconnaissables. Chacun d'eux, outre son épée, avait une dague et un poignard, l'une à lame large, l'autre mince et court, et une paire de pistolets bien chargés et amorcés. À l'extrémité du passage voûté, Magnus poussa le clou à tête saillante qu'on voyait sur le mur, la pierre tourna, et ils entrèrent dans le souterrain, au milieu duquel le pied de la tour du serpent dressait sa lourde masse arrondie. « Il est là, » dit Rudiger. Magnus, sans répondre, tourna autour des fondements de la tour, consulta chaque pierre des yeux et de la main, en découvrit une d'une forme particulière, et poussant son poignard dans l'interstice qui la séparait de sa voisine, fit jouer un ressort invisible. Carquefou et Rudiger, qui retenaient leur souffle, suivaient chacun de ses mouvements avec anxiété. Une porte basse s'ouvrit devant eux lentement et sans bruit. Elle était faite d'un seul bloc et tournait sur des gonds de fer. Magnus passa le premier et projeta la lumière de sa lanterne dans le cachot où il venait de pénétrer. Une ombre livide s'agitait dans l'obscurité. « Dieu, mon maître !» cria Magnus, qui reconnut M. de la Guerche presque avant de l'avoir regardé. D'une main tremblante, il coupa les cordes qui le liaient sur sa couche de paille. « Hé, c'est Mathéus !» reprit-il en rugissant. « Et il a fait cela, sachant que je vis ?» Libre, Armand-Louis se leva lentement. « Ah, je n'espérais plus, » dit-il. Magnus lui embrassait les mains et pleurait en le voyant si pâle et si décharné. Carquefou s'essuyait les yeux. « Bien sûr, » dit-il, « le bandit n'aura pas mieux traité monsieur de Chauffontaine. »« Est-il libre aussi ?» demanda Armand-Louis. « Pas encore. »« Cherchons donc. Je ne sortirai pas de ce repère sans lui. » Monsieur de la Guerre chavala à la hâte deux ou trois gorgées d'un cordial dont, par précaution, Carquefou avait rempli une petite gourde et sortit de la tour. « Mais vous chancelez !» s'écria Magnus. « Ah, la pensée de délivrer mon frère d'armes donnera des forces !» répondit monsieur de la Guerche. On le couvrit d'un capuchon, on l'arma d'un poignard et d'une paire de pistolets, et les quatre conjurés montèrent hardiment l'escalier en colimaçon qui des caves conduisait au rez-de-chaussée du château. Ils se trouvèrent bientôt dans une galerie confusément éclairée par un falot suspendu au plafond. Un homme veillait dans un coin. À la vue de cette petite troupe, il se leva. Rudiger courut à lui et mettait un doigt sur ses lèvres. « Agnus Dei, » dit-il. « Et Wallenstein, » répondit la sentinelle. Magnus lui poussa le coude et se penchant à son oreille. « Des officiers de l'armée impériale envoyés par le comte de Tilly. »«
Chut, »
murmura-t-il, « je les ai reçus et les conduis au seigneur Matthäus. Il y a de grands événements. » La sentinelle sourit d'un air satisfait et la troupe passa. Un autre homme était debout à la porte même de l'appartement occupé par Matthäus. « Agnus Dei, » dit-il en s'avançant vers Rudiger et la main sur la crosse d'un pistolet. « Et Wallenstein, » répondit Rudiger, et baissant la voix.
« Silence, Jean de Werth est là, il arrive du camp. Que le seigneur Matthäus dorme ou ne dorme pas, il veut le voir. »
L'homme au pistolet ouvrit la porte. Un instant après, Armand Louis et ses compagnons se trouvaient dans une pièce immense dont l'un des angles était occupé par un grand lit à baldaquin. Un flambeau à deux branches brûlait sur une table. La main de Magnus écarta brusquement les rideaux. Matthäus Horoscope ouvrit les yeux et vit devant lui les bouches de quatre pistolets tournées contre sa poitrine. Les quatre personnes qui se tenaient avaient des cagoules rabattues sur les yeux. «
Pas un mot, » dit l'une d'elles, « un cri, un soupir, et tu es mort. »
Matthäus restait immobile. La pensée d'une révolte traversa son esprit.
« Est-ce de l'or qu'il vous faut ? Parlez, » dit-il.
Armand Louis souleva le capuchon qui cachait son visage.
« Qu'as-tu fait de Renaud ? Lui dit-il.
Une sueur glacée se répandit sur le visage de Matthäus. Mais les précautions qu'on employait lui firent comprendre que le château était encore à lui. S'il gagnait du temps, peut-être pourrait-il avoir le dernier mot de cette aventure.
« Vous demandez, monsieur de Chauxfontaine, que ceux qui vous ont délivré le cherchent ! »
s'écria-t-il. Il avait élevé la voix et fait un mouvement pour sauter à bas du lit. La pointe d'une épée toucha sa poitrine nue.
« Prends garde, »
lui dit Magnus. « Nous avons peu de patience et tu es en notre pouvoir. » Matthäus croisa ses bras sur sa poitrine et la haine l'emportant sur la peur.
« Frappez donc, » répondit-il. « Si je meurs, monsieur de Chauxfontaine mourra aussi. »
Les quatre compagnons se consultèrent du regard. Chaque minute qui s'écoulait avait pour eux la durée d'un siècle. On entendit le bruit sourd et cadencé d'une ronde qui passait dans la galerie. Matthäus sourit.
« Ah, mes maîtres, vous croyez qu'on peut entrer dans l'antre du lion et qu'on en sort vivant ?»«
S'il a du cœur, nous sommes perdus, » murmura Magnus. Carquefou secoua le gouverneur sur son lit.
« Ainsi, tu ne veux pas, » dit-il.
« Non, on ne meurt qu'une fois. »
Carquefou saisit d'une main l'épée que Matthäus avait jetée sur un fauteuil avant de s'endormir, et de l'autre se mit froidement à en marteler la lame avec le tranchant de son poignard.
« Mourir n'est rien, le supplice est tout, » reprit-il. « Une balle pour toi ou un bon coup d'épée en plein cœur. Allons donc, je fabrique une scie, et avec cette scie je couperai ton misérable corps en deux. »
Matthäus devint livide.
« Magnus, bâillonnez cet homme, »
ajouta Carquefou, et il acheva de marteler l'épée dont il essaya les dents sur le bois de la table. Monsieur de la Guerche s'approcha de Matthäus Horoscope que la main de Magnus clouait sur son lit.
« Écoute, » lui dit-il, « si tu nous conduis vers Monsieur de Chauxfontaine, ta vie sera sauve et tu seras libre. Je t'engage ma parole. Et si tu refuses, je jure par les mille cornes du diable que les dents de cette scie s'abreuveront de ton sang jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une goutte dans tes veines, » ajouta Carquefou.
« À présent, tu as une minute. Choisis, » dit Magnus.
Cependant, Rudiger, le pistolet au poing, veillait à la porte de la chambre. Matthäus regarda tour à tour chacun des acteurs de cette scène. Tous étaient impassibles. Carquefou appuya la lame ébréchée de l'épée sur les flancs moites de Matthäus. Tout le corps du misérable frissonna. Carquefou fit un mouvement et les dents aiguës de la scie mordirent les chairs. Les yeux de Matthäus semblèrent sortir de leur orbite.
« Ah, je cède. Le passage est là. Je vous conduirai. »
Et ses dents claquaient tandis qu'il parlait. Carquefou abaissa la pointe de la scie. Matthäus, que Rudiger et Magnus tenaient chacun par un bras, entra dans un cabinet et s'engagea dans un escalier noir au bas duquel on voyait une porte ferrée.
« Il est là, » dit-il.
« Ah, sous ta main, »
murmura Carquefou.
« La clé, à présent. »
La porte ouverte, il aperçut à trois pieds du sol, accroché contre le mur, la tête penchée sur la poitrine, Renaud de Chauffontaine, qui ne donnait plus aucun signe de vie.
« Ah, bandit !» cria Carquefou.
D'un bond, il enleva son maître, le coucha par terre et délia ses mains roidies et gonflées.
Renaud soupira.
Soudain, Carquefou introduisit le goulot de sa gourde entre les lèvres du prisonnier. Renaud but largement et ouvrit les yeux. À la vue d'Armand Louis, il se leva et montrant Mathéus avant même de pouvoir comprendre ce qui se passait.
« Regarde, c'est l'homme le plus laid que je connaisse. Cela passe la vraisemblance. »
Mais déjà Carquefou s'était emparé de Mathéus.
« L'anneau est encore là, à ton tour. »
Et avant que personne eût songé à s'opposer à son dessein, il l'avait accroché dans la même position et à la place que M. de Chauffontaine occupait tout à l'heure.
« Remercie Dieu à présent que M. de la Guerche t'ait donné sa parole !»
poursuivit Carquefou. « Sans cela, je te jure bien que mon épée t'aurait jeté sans vie sur ce tas de paille. »
« Écoute, continua Renaud, je connais les habitudes de la maison. Demain, vers midi, on t'apportera une poignée de lentilles délayées dans un peu d'eau. Le médecin, ton ami, te prouvera que tu n'as pas mal dormi et vous pourrez déjeuner ensemble. Maintenant, n'oublie pas ceci. J'ai le doux espoir de te rencontrer encore, aimable Seigneur. Mais ce jour-là, tu seras pendu si bel et si bien, non par les aisselles, mais par le cou, que ta dernière grimace épouvantera le monde. »
Mathéus Horoscope lié, bâillonné et suspendu, Magnus ferma la porte et toute la troupe rentra dans l'appartement qu'elle venait de traverser. Chemin faisant, Carquefou, qui avait l'œil à tout, fit passer dans sa poche une bourse d'une assez belle taille et ronde à plaisir qu'il avait vue sur une table.
C'était une orpheline, offrons-lui un asile, dit-il.
Interrogé du regard par Renaud,
Monsieur le marquis, reprit-il, il ne faut point laisser de munitions de guerre à l'ennemi. Les règles de la plus vulgaire prudence le commandent.
Tout en parlant, il enveloppait son maître d'un vêtement qui avait appartenu à Mathéus.
« Quelle cruauté du sort » reprit-il, « se cacher sous la peau d'un misérable loup !»
Renaud pâlit tout à coup et chancela. Au même instant, une ronde passa dans la galerie et on cogna à la porte.
« Qui est-ce ? » demanda Magnus d'une voix sourde.
« Le médecin fait demander à votre seigneurie s'il ne serait pas opportun de rendre visite aux prisonniers, » répondit l'homme qui avait frappé. « Il pourrait se faire qu'il vint à trépasser dans la nuit, et ce serait dommage. »
« Le prisonnier a la vie dure, » répondit Carquefou, qui soutenait Renaud. « Je le connais. Demain, il sera frais et grouillant comme une anguille. »
Pendant que ces quelques paroles étaient échangées, les compagnons apprêtaient leurs armes silencieusement. Les pas de la ronde s'éloignèrent dans la galerie et la voix se tut. Magnus respira.
« J'ai cru que l'heure était venue de vaincre ou de mourir ici, » dit-il.
« Oh, le cœur à présent, monsieur le marquis, » reprit Carquefou. Si nous ne voulons pas être pris dans cette salle comme des goujons dans un filet, dépêchons-nous de partir. »
Renaud fit un effort désespéré.
« J'ai tant souffert, » dit-il.
« Mais sois tranquille, où l'âme commande, le corps doit obéir. »
Et d'un pas lent mais ferme, il marcha vers la porte. Magnus l'ouvrit résolument. La sentinelle, qui n'avait pas remué, les regarda.
« Pas un mot, » lui souffla Magnus dans l'oreille.
Rudiger, qui venait après, se découvrit à demi.
« Jean de Werth est là, avec le seigneur Mathéus. Affaire d'état, » continua-t-il. « Ne dis rien aux camarades de ce que tu as vu. »
La sentinelle se rangea respectueusement contre le mur en faisant le salut militaire. La troupe atteignit l'extrémité de la galerie, descendit l'escalier et se trouva bientôt dans les souterrains du château. Un courant d'air vif leur caressa le visage. L'ouverture secrète pratiquée dans les fondations de la tour était béante devant eux. Ils s'y engagèrent l'un après l'autre, Magnus marchant le dernier et Carquefou en tête. Le bloc de pierre retomba dans son cadre muet, et en quelques minutes, les fugitifs arrivèrent à l'entrée du long passage qu'ils avaient suivi 2 heures auparavant. Quand ils eurent écarté les herbes flottantes et les ronces qui en masquaient la voûte étroite, ils virent briller d'innombrables étoiles dans le ciel. Armand Louis et Renaud tombèrent à genoux.
« Libre !» dirent-ils d'une commune voix. Derrière eux, Magnus, Rudiger et Carquefou s'embrassaient.